La semaine dernière, pas dimanche, voilà, on a parlé, donc le sujet c'était suivre celui qui avance. Et ce matin, ben, on restera un peu dans la même pensée puisque je n'ai pas vraiment terminé ce que je voulais apporter dimanche dernier. Suivre celui qui connaît le schéma. Et qui avance? Celui qui connaît le chemin et qui avance. Donc, vous voyez, suivre et connaître le schéma, c'est une chose, voilà. Mais ceux qui suivent doivent avancer et suivre celui qui avance dans une bonne direction. Alors, la parole de Dieu nous dit que Jésus s'adressait à plusieurs personnes. À plusieurs moments, à certaines personnes pour leur dire suis-moi, suivez-moi. Vous vous souvenez de ces expressions? Pour dire bah, venez avec moi. Ça, c'est quand Jésus était là sur cette terre et parlait avec les uns et les autres, il prêchait la bonne nouvelle et prêchait le salut. Et souvent, ben voilà, il dit, ben Pierre, suis-moi, viens avec moi, et tu verras. Alors, pour confirmer cette pensée, on va voir le Marc, donc l'évangile de Marc, chapitre 2, et le verset 13 et 14, qui nous dit, Jésus sortit de nouveau du côté de la mer, toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, quelqu'un qui s'appelait Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau de péage. Il lui dit, quoi? Suis-moi! Et regardez ce qui s'est passé. Lévi se leva et le suivit. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui était dans le bureau, quelqu'un qui était dans son travail, quelqu'un qui était donc à son poste, et puis Jésus arrive et puis lui dit, bon, Lévi, suis-moi. Et il l'a suivi. Vous savez que enfin, pour suivre Jésus, pour suivre Jésus, c'est bien de connaître, savoir, avoir une connaissance, c'est déjà bien. Mais suivre Jésus, c'est plus que juste la connaissance et l'intelligence. Pour suivre Jésus, il nous faut la foi. Il faut croire. Il faut avoir une foi vivante. Alors, quelle est la différence entre la foi et la foi vivante? Alors, Jacques, chapitre 2, versets 15 à 17, nous dit ceci. Si un frère ou une sœur sont nus, pas sont rien, et manque de la nourriture de chaque jour. Et que l'un d'entre vous leur dise, allez, allez au paix, chauffez-vous, et vous rassasiez. C'est un peu fort là, la lumière, donc j'ai un peu de difficulté. Et que vous ne leur donnerez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? Ça va? Imaginez-vous si j'ai rien à manger et vous allez me dire, bon, ben, c'est bon, toi, vas-y, garde la paix, attends, et vous n'allez pas m'aider, c'est une foi morte, pas du tout efficace. Donc, la foi, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. C'est clair? Avoir la connaissance, connaître historiquement la parole de Dieu, la Bible, c'est très bien. Mais pour que notre foi soit vivante, pas morte, il faut mettre en action la parole de Dieu. Il faut la vivre. Amen. Sinon, ça sera rien. Donc voilà, pour suivre Jésus, il faut que notre foi soit efficace. Elle est efficace quand elle est vivante. Vivante. La parole mise en pratique. Je vis ce que je lis, je vis et j'accomplis ce que la parole me dit. Amen. La connaissance, c'est très bien. C'est une première étape. Mais si on ne va pas plus loin, ça reste juste là et la foi, elle est morte. Donc, vous avez vu que c'est tellement important d'avoir la foi. Alors maintenant, pour que notre foi soit aussi vivante, oui, mise en pratique, mais ça veut dire quoi? C'est aussi lire la parole de Dieu. Puisque nous avons besoin de nourrir la parole de Dieu. La foi. Nourrir la foi par la parole de Dieu. Excusez-moi. Donc, si nous lisons la parole de Dieu, d'accord? Si nous ouvrons la parole de Dieu, nous avons les instructions de Jésus, les instructions de Dieu, par le Saint-Esprit, voilà, qui nous enseignent et qui nous conduisent vers la réalisation de la parole de Dieu. Donc, aujourd'hui, tu peux te poser la question, est-ce que tu lis la Bible? Est-ce que tu lis la parole de Dieu? Est-ce que tu entends la parole de Dieu juste le dimanche? Ou une fois de temps en temps, quand on se téléphone et puis on parle de Dieu, oui, j'ai témoigné, etc. Alors, vous savez, je ne suis pas très jeune, vous voyez. Tant d'années derrière nous, Christiane et moi, nous avons toujours servi Dieu. Et chaque fois, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas encore tout. Seigneur, je dois lire la parole de Dieu. Quand je vois ce qui se passe autour de moi, et puis dans le monde, voilà, je me tourne vers la parole de Dieu, je lis la parole de Dieu, je nourris ma foi pour que ma foi soit dynamique. Donc, lire la parole de Dieu pour nourrir notre foi, pour que notre foi puisse grandir. Et aussi, je me répète, mettre en pratique la parole de Dieu. Avoir une vie de prière. Avoir une vie de prière. Ça va, vous êtes avec moi? À titre personnel, Seigneur, vous savez, on peut dialoguer avec Dieu facilement. Quand on est dans une voiture, on ne va pas prier. Parce que si on est dans une voiture, comme on se prie avec les yeux fermés, ça va aller mal, non? Ça ne va pas aller, hein? Déjà, quand je suis dans la voiture avec Christiane, et quelquefois, quand on a des invités, alors elle n'accepte pratiquement pas que c'est moi qui conduise. Et souvent, les invités me disent, des prédicateurs, voilà, Ah ben Antoine, tu conduis plus, c'est ta femme? Ben, j'ai dit oui, mais elle ne veut pas, hein, parce que je vais parler avec toi. Et je tourne la tête. Et puis quelquefois, et puis elle freine. Et je lui dis, non, non, ça ne va pas marcher. Ça se passe comme ça pour vous? Alors il faut être quoi? Concentré. Concentré. Mais on peut juste, quelquefois, en dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu vois ce qui se passe autour de moi. Je vois toutes ces voitures, tous ces gens-là qui ne sont pas sauvés. Je ne vais pas prier, mais je vais dire à Jésus juste deux, trois mots. Et c'est déjà valable. On est d'accord? Jésus, j'ai besoin de toi. Mais la prière ne s'arrête pas là, vous voyez, parce que on doit trouver le moment. Moi, j'étais très, très occupé avant la vie professionnelle, la famille, grande famille, l'église, toujours l'église. J'ai devais gérer tout ça, avoir un équilibre. Mais j'ai tout fait pour trouver quelque part un moment pour dire, Seigneur, je t'offre mes 5 minutes et je te demande la bénédiction, la protection, la direction. Aide-moi, Seigneur. Tu vois ma famille, tu vois mes enfants. Donc, c'est une vie de prière. Et puis ensuite, au couple, il y a des gens qui ont difficulté de prier en couple parce qu'ils sont gênés là envers l'autre. Mais il faut développer une vie de prière en couple et en famille quand c'est possible. Quand c'est possible, bien sûr, parce que voilà, tout le monde... voilà, mais il faut que les enfants puissent aussi savoir que c'est possible de prier en famille. Je me souviens, notre dernier fils que vous connaissez, je peux parler de lui parce qu'il n'est pas là ce matin, il est un peu malade. Donc, quand on voyait que voilà, c'était pas clair, hein, le monde faisait tout pour l'attirer. La jeunesse passe par des moments difficiles. Bon, moi, j'ai compris ça, mais en même temps, on l'observait, on priait, on dit « Non, Satan, tu ne vas pas gagner, tu ne vas pas nous voler notre fils. » Parce que ceux qui étaient avant, bah, ils étaient déjà engagés. Non ! On a refusé, on a refusé. On a pleuré, on a crié à Dieu « Non !» Alors, quelquefois, juste pour savoir un peu, vous comprenez, pour savoir ce qu'il vivait, j'ai dit, bon, écoute, je savais que si je lui propose la prière aux familles, ça ne va pas marcher. Est-ce que tu pries quand tu vas dormir? Tu sais, demain, c'est l'école, tu as besoin de Dieu. Comprenez, il y a une façon de parler. Elle lui dit, oui, oui, il n'y a pas de problème. Il dit, je rentre dans mon lit, je me couvre bien, il n'y a personne qui me voit, et j'ai prié. Bon, on ne m'a pas appris comme ça. Hein. Moi, il fallait s'agenouiller, il fallait pleurer, il fallait faire un effort à l'époque. Ça marchait aussi. Mais là, pour lui, ça marchait aussi, parce qu'il a même trouvé une femme, il a rencontré une femme formidable. Ah, il est là, oh là là. Et ça marche. On s'est battu dans la prière. La prière. La prière est une force. La prière est une chaudière pour une église. C'est pourquoi développer une vie de prière en couple, en famille, quand c'est possible, avec d'autres. Et aussi, le dernier point qui est important aussi, avoir une vie d'église. Quand on était pendant le Covid, ce n'était pas facile, hein, même si actuellement, il y a tout ce qu'il faut pour bien communiquer, déjà le téléphone, mais c'est déjà vieux, mais bon, maintenant, c'est tout d'autres techniques qui sont là, on se voit même, et puis on a pu communiquer. Mais malgré tout, il nous manquait quelque chose, hein, non? Ce contact physique, quand on était là, même si c'est avec le masque, bon, les masques sont encore là, ben, on est heureux, on est heureux. On est content. La vie d'église, et puis ensuite, on est engagé. Tout le monde ne va pas prêcher, tout le monde n'est pas appelé pour prêcher. Mais il y a toutes sortes d'activités dans une église qui se développent. Regardez, ce matin, on est arrivé à quelle heure? 9h30, je pense. Il y avait déjà des voitures là, parce qu'on prépare le culte, parce que d'autres personnes, il y avait une réunion au premier étage, j'ai vu trois ou quatre personnes avec quelqu'un, il faisait l'étude biblique, je pense, au fond, voilà, en avant, donc l'enseignement. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une vie d'église. J'ai reçu, je partage. Si je reçois, c'est aussi pour faire grandir ma foi, mais en même temps pour pouvoir donner aux autres. Je prépare une personne, un jeune homme à Ouadrolo, au baptême, et puis chaque fois il me dit, Antoine, je suis tellement heureux, tu te rends compte, tu me consacres une heure par semaine, bon maintenant c'est une heure, parce qu'il y a déjà la réunion de prière, mais avant c'était même 2 heures, 2 fois, une heure et quart, et il dit, ça va manquer après, quand on va arrêter, et tout ça. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit que finalement, tu sais, je fais tout ça pour le Seigneur. Ça fait partie de ma vie d'église. J'ai tellement reçu dans ma vie. Alors je donne, je partage. Et je lui ai dit, tu vois, aujourd'hui tu reçois, je te donne, je partage, je t'apporte un conseil de Dieu. Je ne suis pas le dirigiste, je ne suis pas un gourou, je ne veux pas que tu accordes quelque part une confiance totale parce que aujourd'hui je suis là, demain je peux disparaître. Alors la confiance totale, c'est Dieu. Mon conseil, c'est que tu puisses développer une relation personnelle avec Dieu. Avec Dieu, c'est ça. Et quelquefois, quand il y a un peu de désaccord, quelquefois, parmi les chrétiens, ils ont l'impression que nous, les prédicateurs, les pasteurs, on veut leur imposer des choses. Non, chaque fois, j'ai dit attention. Je te donne le conseil de Dieu. Mais c'est Dieu qui te voit. C'est toi et Dieu, avant tout. Et puis nous sommes ensemble. Oui, Dieu a donné les ministères dans l'Église pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Donc, une vie d'Église. Vous savez, ben, Christian et moi, ben, au début, ici, il n'y avait rien, on est venu. Et puis, ben, il fallait nettoyer. Ben, dans la semaine, nous avons nettoyé, on a appelé des personnes de Waterloo. Et puis, dimanche, j'ai prêché. Puis après, j'en allais. Elle est arrivée, elle nous a virés de nettoyage. Bon, lui pardonne. Mais c'est comme ça. C'est formidable. Voilà. Ça avance. On est sur le chemin, puis on suit quelqu'un. Je répète, c'est Jésus. Il a fait la même chose. Il servait, il prêchait, il encourageait. Il était là. Et les disciples pouvaient lui dire, je laisse tout, je te suis. Oui, j'y vais. Je vais avec toi. Parce qu'ils ont compris. C'est important. Alors, mes amis, lorsque nous suivons Jésus, lorsque nous sommes sur le chemin, voilà, pour suivre Jésus, ah ben, l'ennemi veut nous piéger. L'ennemi, notre ennemi, il met des obstacles sur notre chemin. Il peut nous crever les pneus. Il peut mettre une bûche devant la voiture. ou autre chose, vous comprenez? Et dans la vie spirituelle, nous, la même chose. Pendant toutes ces années, on a pu expérimenter beaucoup de combats, de vrais combats atroces, parce que l'ennemi voulait nous déstabiliser. Alors, quelquefois, ça commence comme ça, petitement. Il sème dans nos cœurs le doute. Est-ce que c'est vrai, finalement, ce qu'il raconte? Est-ce que c'est vrai ce que la Bible nous raconte? Est-ce que la Bible, elle est finalement la parole de Dieu? C'est le doute. Ça commence comme ça, gentiment. Et ensuite, on commence à douter. Quand on commence à douter, ça devient grave, quand on doute. Et ensuite, il y a le découragement qui arrive. Quelquefois, il y a des épreuves dans la famille, le travail. On cherche des solutions pour notre vie. Et finalement, j'en ai tellement vu les personnes qui étaient découragées. Découragées. Donc, l'ennemi, un obstacle dans tout ça, c'est aussi un découragement. La révolte même. Que bien même parmi nous, je ne parle même pas de Dieu, que bien parmi nous, quelquefois, certains sont révoltés contre la société. Au lieu de faire quoi? De prier, de bénir les autorités, etc. Eh bien voilà, nous sommes révoltés. Et on voit tout ça dans le monde, avec des gens qui sont révoltés. Quelquefois, ça m'est arrivé que j'avais quelqu'un qui était révolté devant moi, mais même, vous savez, dans les milieux médicaux, on parle avec les uns et les autres, parce qu'on a pu faire beaucoup d'examens, etc. Ben, on voit même un médecin qui est révolté contre la société. Et puis là, on est là pour apporter la paix. Donc, voilà, il y a aussi la révolte. Le jugement, on juge facilement aujourd'hui. Hein. Aussi dans les familles, quelquefois. Ah, ben lui, elle, hein, ce qui se passe. Oui, il y a des choses qui se passent, mais nous prions, au lieu de prier, bénir les autres, même nos ennemis. Ah ben, quelquefois, on est entraîné dans cet esprit de jugement. Et quelquefois, le jugement rentre dans nos assemblées pour nous détruire, pour nous contaminer. La culpabilité est un esprit de destruction. Certains parmi vous, vous venez de loin. Quand je dis de loin, c'est vous étiez complètement dans le trou, dans le péché, condamnés, même si nous étions tous condamnés. Mais moi, je n'ai pas connu tout ça parce que j'étais élevé dans une famille chrétienne. Vous le savez, mon père était pasteur. Je n'ai pas goûté des petites choses dans le monde que j'ai pu goûter. J'avais la sensation que c'était déjà terrible. Mais quand je parle avec certains parmi vous qui me racontent et ça, l'impureté, le péché, l'adultère, la drogue, etc., ah ben, on vient de loin, certains parmi vous, mais Dieu vous a sauvé. Dieu t'a sauvé. Et pour Dieu, c'est ça. Celui qui accepte Jésus est une nouvelle créature. Il est sauvé. Dieu n'a pas besoin de repentance pendant un jour, pendant une semaine, pendant un an. Tu lui confies sa vie et tu lui dis, Seigneur, j'étais pécheur, pardonne-moi, je t'accepte Jésus. Et c'est réglé. Vous pensez que c'est vrai? Sinon, mais l'ennemi qui met les obstacles dans toutes ces choses-là, il nous culpabilise. Tu penses que tu vas réussir? Tu penses qu'il y a quelqu'un qui te pardonne tes péchés? C'est Satan qui vient pour semer la panique dans nos cœurs. Donc, cette culpabilité, voilà, l'ennemi met aussi dans nos cœurs la culpabilité. Je ne vais pas réussir, par exemple. Je suis incapable de. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, quand j'ai partagé mon témoignage, ben je dis Antoine, il m'a dit ça. De toute manière, ne me parle plus parce que moi, je ne veux pas savoir faire ce que tu fais et ce que tu vis. Même si je te vois d'être heureux, tu ne veux pas être heureux comme moi? Je ne vais pas arriver. J'ai fait ça, et j'ai fait ça, et j'ai fait ça. Tu penses que tout ça, Dieu peut me pardonner? Vous comprenez la culpabilité. Moi, j'ai dit, oui, tu confesses, et Dieu peut te pardonner maintenant. Amen. Et c'est ce qui s'est passé avec nous tous. Ensuite, il y a aussi actuellement tellement de problèmes au niveau de la doctrine. J'ai reçu pas mal de coups de fil de nos amis, même pasteurs, qui disaient, bon, tu vois, Antoine, c'est fini. Moi, j'ai dit, écoute, si c'est fini cette nuit-là, tu as encore quelques heures pour aller sauver quelqu'un. Si ça va arriver dans une semaine, tu as encore une semaine pour sauver quelques âmes, arracher quelques âmes. Mais je vous dis ça clairement, attention, ce n'est pas encore pour demain. Il ne faut pas écouter. Et si Jésus vient demain, il faut être prêt à tout moment. On peut mourir, non? Voilà où est le problème. Et on fait toute une doctrine pour déstabiliser le chrétien. On arrête tout. Et puis on attend parce que Jésus va venir. Mais moi, j'ai entendu ces paroles quand j'étais enfant. 6, 7 ans, 8 ans, voilà, Jésus va venir, c'est tout. J'ai dit à mon père, je ne vais pas aller à l'école parce que Jésus arrive. Et maintenant, tu vas à l'école. N'écoute pas tout ça. Et ça, regardez, les années passent. Et c'est encore, on est encore là. Hein. C'est bon, hein? Voilà, donc vous voyez tout ça. Combien on doit faire attention. Suivre Jésus, ce n'est pas suivre les hommes, toutes sortes de doctrines, toutes sortes de philosophies. Non, nous voulons suivre Jésus, qui est notre maître et notre Seigneur. Ensuite, vous savez que nous avons reçu, Dieu nous a envoyé un consolateur, le Saint-Esprit, pour nous conduire, pour nous enseigner aussi. Jean 14, verset 26 nous dit, mais les consolateurs, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, même les virgules, toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Maintenant, il faut laisser la place aussi au Saint-Esprit. Il ne faut pas que ça reste intellectuel. Je n'ai pas le temps de développer ces points-là maintenant, mais il faut laisser le Saint-Esprit parce que c'est la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit joue un rôle important dans nos vies. Donc, on a vu ça. Et là, je vais vous montrer comment, juste un exemple dans la parole de Dieu, comment le Saint-Esprit conduit, agit, même dans l'Église. Les Actes des Apôtres, chapitre 13, et les trois premiers versets nous disent « Il y avait dans l'Église, d'Antioche, des prophètes et des docteurs. » Voilà, et puis ensuite, plus loin. Pendant qu'ils servaient, donc il y avait des prophètes, voilà, pas mal de personnes là, vous avez vu. Pendant qu'ils servaient les seigneurs, pendant qu'ils étaient ensemble, ils n'étaient peut-être pas dans une salle comme nous, ils étaient chez quelqu'un, dans une maison, servaient les seigneurs, c'est-à-dire adorer Dieu. Mais comme nous, il n'y avait peut-être pas le sainteté à l'époque. Peut-être, il n'y en avait pas. Il y avait autre chose. Ils étaient là, ils priaient, ils s'encourageaient, ils servaient Dieu, comme nous ce matin. Et pendant, je répète, qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère, tout ce que nous faisons, voilà, c'est service, c'est le ministère, servir Dieu, mais aussi servir l'Église, servir les uns et les autres, qu'ils jeûnaient, donc le jeûne fait partie aussi de la vie d'un chrétien, jeûner. Quand j'étais jeune, je jeûnais quelquefois 3 semaines, le plus long. Je vous dis ça parce que j'ai fait. Si je n'avais pas fait, je ne vais pas vous raconter n'importe quoi, mais 3 semaines, c'est possible, je l'ai fait. Christiane peut vous confirmer. Et combien j'ai pu découvrir beaucoup de choses pendant ce temps-là. Ça fait la prière, le jeûne. Voilà, et puis on reçoit des directives de Dieu, on est en relation avec Dieu, voilà. Et donc, voilà, qu'il gênait, le Saint-Esprit dit, le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit, tout à coup, s'adresse à cette assemblée-là. Oh ! Le Saint-Esprit est invisible. Est-ce qu'il peut parler ? Ben oui, parce que Dieu se sert des uns et des autres, il y a des prophètes, etc. Le Saint-Esprit parle, l'Esprit dit, l'Esprit donne les consignes, il dit ce qu'il fallait faire. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous voyez, il y a le Saint-Esprit qui nous parle. Ce n'est pas juste intellectuel, mais il y a « prions pour les prophètes, prions pour ceux qui peuvent nous apporter le conseil de Dieu par le Saint-Esprit, c'est tellement important. » Je me souviens, quand on était sur le toit ici il y a 20 ans, avec un certain Gérard qui est décédé de Waterloo, et puis voilà, on faisait des réparations. Et puis Gérard regarde le terrain là, c'était la jungle derrière là, ce jardin que vous connaissez, et la maison. Et il m'a dit, tu sais Antoine, l'Église va acheter aussi cette maison-là, ce jardin-là. Et moi je lui ai dit, bon, calme-toi, déjà là, il y a du boulot, on nage dans tout ça, ça pleut partout. Bon, aujourd'hui, je vois qu'il y a encore 2-3 gouttes là, mais Christian les trompe déjà, mais c'est juste une fuite, hein, on va réparer. Et après, il me regarde, Gérard, il me regarde, il dit, Antoine, mais prends ça au sérieux, ce que je dis. Ah bon, il était plus âgé que moi, bien sûr, mais il y avait une fibre prophétique. Voilà, il apportait des choses prophétiques beaucoup. Et il m'a dit, c'est sérieux ce que je dis, hein. Gérard, calme-toi, je ne suis pas vraiment prêt même à penser à ça. Puis des années après, vous voyez l'oasis qui est là, malgré les obstacles, les difficultés, etc. etc. Voilà. L'œuvre de Dieu avance. C'est beau tout ça. Mais j'ai dû discerner, réfléchir, me présenter devant Dieu, et dire à Dieu, donne-moi une confirmation. Je ne voudrais pas que ça soit juste sentimental. J'ai reçu cette conviction par le Saint-Esprit. Donc, nous avons reçu ce Consolateur, le Saint-Esprit, il nous enseigne, voilà, il nous donne les directives de Dieu, et ça, c'est formidable. Dieu est avec nous. Je vais juste pour conclure ce message par un verset, pour vous montrer que Dieu est vraiment avec nous si nous avons accepté Jésus. Donc, le dernier verset que nous allons lire là, c'est l'Ancien Testament, excusez-moi, voilà. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi, Dieu avec toi. Il ne te délaissera point, il ne te t'abandonnera point, n'écras point et ne te frie pas. C'est fort, hein? Alors ça, c'est Moïse, pour ceux qui connaissent l'Ancien Testament, qui s'adressait à son successeur, s'appelait comment? Josué. Et il lui dit, voilà, que l'Éternel marchera. Quand on marche, on avance, on est bien d'accord? Marchera lui-même devant toi. Ah ben nous, aujourd'hui, nous sommes sous la grâce de Jésus, d'accord? Donc Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit. On ne voit pas Jésus en tant qu'une personne physique, comme les disciples, mais il nous a envoyé le Saint-Esprit, et il est là, il nous conseille, et il est avec nous, il nous accorde sa puissance, la puissance de Dieu. Donc, je répète que, pour vous dire, sachez et soyez rassurés, convaincus que l'Éternel marchera devant nous sur ce schéma que nous avons choisi, suivre Jésus. C'est bon, hein? C'est fort. Merci, Seigneur, pour toutes ces bonnes choses. Alors, dans quelques instants, nous allons nous séparer. Méditez la parole de Dieu. Ce que vous avez entendu, il y avait les chants qui nous parlaient. Quelquefois, ça m'est déjà arrivé que quelqu'un m'a dit « Ah, j'étais touché par un chant. J'ai rien entendu d'autre que ce chant-là. » Parce que ce chant-là était justement, c'était un rendez-vous divin avec Dieu par les biais de ce chant-là. Quelquefois, une expression biblique. Les gens étaient touchés parce que Dieu leur a parlé. Alors, méditez la parole. Soyez pas oublieux, mais mettez en application la parole de Dieu et votre foi, notre foi ensemble, grandira en tant que l'Assemblée. Nous allons pouvoir atteindre des bénédictions, des victoires ensemble. Mais ça commence chez toi, dans ton couple, dans ta famille, et puis ensuite ensemble. L'Église est une bénédiction. Alors, comment Dieu nous parle aussi? Par les chants, par la parole de Dieu, par les ministères, il a donné les ministères à l'Église, d'accord? Comme je vous ai expliqué, nous sommes là pour apporter le conseil de Dieu, tout simplement. Mais nous ne sommes pas les sauveurs, mais c'est Jésus qui est le sauveur. Amen. On va se lever ensemble.